Bon, j'essaie d'aller vite parce que je n'entends pas mal. Donc, pourquoi être progressiste? Donc, pour dire simplement qu'avant le capitalisme, que le capitalisme, c'est pas la source du mal. Avant le capitalisme, les choses, c'était pas joyeux, joyeux non plus. Guerre incessante, torture, peine de mort, etc. Disette, maladie, espérance de vie minime. Je rappelle que le capitalisme, c'est quelque chose qu'on date, je sais pas, de la fin du Moyen-Âge, grosso modo, du 14e siècle à peu près. Avant tout ça, le Moyen-Âge, eh ben, c'était moyenâgeux, pour prendre l'image qu'on a habituellement. L'oppression des femmes, je ne fais pas un dessin, c'était vraiment... je rappelle que ça fait qu'il y a un siècle, une femme qui portait un pantalon, qui fumait des cigarettes, je ne veux pas dire, c'était pas très bien vu. Le droit d'avoir un carnet de chèques, ça date de quelque chose comme 75. Pardon ? Oui, c'était sous le capitalisme, de fait. Donc, retour en arrière avant le capitalisme, pour moi, c'est vraiment pas. Alors que ça peut être tentant quand on se met à lire de toutes ses forces le capitalisme. L'injustice sociale omniprésente, ignorance omniprésente, crainte de l'enfer. Que l'animalisme, tout particulièrement à mon avis, a cette raison-là d'être progressiste, parce que, et ceci malgré le fait qu'aujourd'hui les animaux n'ont peut-être jamais autant souffert dans le passé sous l'emprise des humains. C'est-à-dire que aujourd'hui, il y a 60 milliards d'animaux terrestres, 1000 à 3000 milliards de poissons par an. C'est quelque chose qui a grandement et un grand accroissement de ça. Et que dans un sens, ce serait largement mieux pour les animaux si on retournait à la situation il y a 100 ans en arrière. Mais d'un autre côté, pour la première fois dans l'histoire de la Terre, il y a l'idée chez une espèce qui est l'espèce humaine, chez un certain nombre de membres de l'espèce humaine, et pas de façon purement individuelle, mais aussi collective, ça s'appelle le mouvement animaliste, qui veut abolir la prédation de l'espèce humaine sur les autres animaux, et ça c'est quelque chose qui s'est jamais vu. Les lions qui abolissent la prédation des lions, non, ça s'est pas vu, quoi. Je dis pas qu'il n'y a jamais eu d'animaux qui, par sentiment de solidarité, sentiment d'empathie envers d'autres, ont refusé de les tuer. On en a pas mal d'exemples. Et même qui auraient peut-être des capacités mentales tout à fait adéquates à le faire. Je pense aux dauphins. Mais bon, techniquement, les dauphins, ils ont un problème. Ils n'ont jamais pu inventer le feu. Et pour des raisons qui sont accidentelles, ils sont mis dans l'eau. Mais de fait, c'est comme ça. Donc, c'est l'espèce humaine qui, pour la première fois, est capable d'imaginer d'abolir la prédation grâce au progrès de la technique, grâce aux progrès moraux. Et le but n'est pas un retour en arrière. Et ceci malgré l'accentuation de l'horreur par l'élevage intensif. L'élevage traditionnel n'était pas non plus, était aussi une horreur. Et le fait que la sollicitude pour les animaux non humains, ainsi que pour les humains différents, qui fait partie du tableau, c'est-à-dire que traditionnellement, on avait de la sollicitude pour ceux qui étaient vraiment dans son tout petit groupe, et encore, ça n'a jamais été aussi répandu qu'aujourd'hui, et là je vais vous lire en entier, parce que je trouve que c'est très bien dit. Donc c'est une citation de Richard Dawkins, qui est un biologiste, et qui dit « Le monde naturel, c'est le montant total de souffrance par an dans le monde naturel dépasse l'entendement. Au cours de la minute qu'il me faut pour composer cette phrase, des milliers d'animaux sont mangés vivants, d'autres courent pour leur vie la peur au ventre, d'autres sont lentement dévorés de l'intérieur par des parasites, des milliers meurent de faim, de soif et de maladie. Dans un univers où règnent des forces aveugles de la physique, les forces aveugles de la physique et de l'évolution, certaines personnes vont se blesser, d'autres vont avoir de la chance, et vous ne trouverez aucune raison, aucune justice à cela. L'univers que nous observons possède précisément les propriétés que nous devrions en attendre s'il n'y a au fond aucun dessein ou modèle, aucun but, aucun mal ni aucun bien, rien si ce n'est qu'une indifférence aveugle et impitoyable. Donc il ne faut pas se dire la nature est bonne, la nature c'est notre mère nature, il faut retourner aux règles de la nature, mais il faut savoir simplement que la nature c'est un existant qui n'est... qui n'a aucune raison d'être un bien en soi, et que le fait que pour la première fois, on a quelque chose qu'on pourrait catégoriser, qu'on pourrait qualifier d'artificiel, qui est la sollicitude pour d'autres espèces, ça va à l'encontre d'une certaine logique de la nature, et bien pourtant c'est quelque chose de bien. Alors donc, voilà, je brode un peu sur le thème, 3 milliards et demi d'années d'évolution au hasard, donc la théorie darwinienne, mais bon, peut-être cet après-midi on pourra en parler plus, c'est faite sans but, l'évolution, la théorie darwinienne tient que l'évolution s'est faite sans but, sans plan, sans intelligence. L'évolution s'est faite dans la douleur. Alors bon, là, c'est par rapport à une remarque qu'on me fait sur Internet quand je parle de ça. On me dit « Ah, tu te crois plus intelligent que la nature ?» Ma réponse, c'est oui, tout à fait, je suis plus intelligent que la nature. C'est pas difficile, parce que l'intelligence de la nature, c'est zéro. Voilà. Un milliard d'années de prédation, c'est-à-dire que les animaux existent, les êtres sentients existent depuis plus ou moins un milliard d'années. On ne sait pas exactement. Et pour la première fois dans l'histoire de la Terre, des sentients ont les moyens imparfaits, une volonté chancelante d'abolir leur propre prédation au nom des intérêts des proies et d'œuvrer dans le sens du bien de tous. Ça ne se fera pas du jour au lendemain, mais l'idée d'œuvrer pour le bien de tous, et pas simplement mettre des barrières et mettre une séparation, c'est quelque chose qui n'est pas tout à fait nouveau. Il y a des citations dans la Bible, dans l'Ancien Testament, la Bible hébraïque n'est pas... qui donne comme idéal l'histoire du loup qui dort avec l'agneau. Là, il y a une citation d'Émile Zola qui, mine de rien, dit la même chose et qui dit « Si tous les hommes doivent être heureux un jour sur la terre, soyez convaincus que toutes les bêtes seront heureuses avec eux. » Il dit « toutes les bêtes », il ne dit pas simplement les animaux d'élevage. Notre sort commun devant la douleur ne saurait être séparé. C'est la vie universelle qu'il s'agit de sauver du plus de souffrance possible. Alors ici, sur la thématique de la souffrance animale, des animaux sauvages, c'est quelque chose, nous avec qui, vos clients spécistes, on avait commencé à en parler dans les années 1795, mais ces temps-ci, il y a vraiment un décollage de la chose. Je cite simplement ce groupe Facebook Reducing Wild Animal Suffering, comme nom qui sont bien connus, ce n'est pas les seuls. Il y a David Pearce qui est un philosophe anglais, Brian Torosik qui est un jeune philosophe américain, et en particulier son site utilitarianessays.com. Ah bon, si vous tapez. Des mots, alors bon, je suis désolé, c'est tout en anglais, enfin pratiquement tout en anglais, à part ce qu'il y a sur les cahiers antispécistes. Voilà, bon, je reviens un petit peu sur la définition de ce que c'est que d'être de droite, avec une belle citation de Jean-Marie Le Pen, dont j'ai pas retrouvé la source, hein, je cite de mémoire, ça m'avait frappé, c'était... dans une radioscopie de Jacques Chancel, ceux qui sont un peu vieux peuvent peut-être se souvenir de ces choses-là, et une interview donc d'une heure à la radio, et on lui avait demandé « qu'est-ce que c'est pour vous être de droite ?» Il a eu cette phrase que je trouve très juste. « Être de droite, c'est penser que l'homme ne changera jamais. » Et je pense que justement, sa définition est très juste, mais qu'il a tort dans cette idée que l'homme ne changera jamais, que les humains ne peuvent pas changer. Je reviens sur l'idée traditionnelle humaniste des humains comme des pages blanches, ce qui est quelque chose de faux. On n'est pas des pages blanches, il n'y a pas plus que les chiens. L'idée qu'il n'y aurait aucun déterminisme humain génétique chez les humains, c'est quelque chose de totalement absurde. Mais par contre, l'idée que les pages blanches, que ce qui est écrit sur la page, c'est-à-dire le déterminisme humain serait une sorte de devoir-être, là par contre c'est complètement faux. C'est-à-dire que le fait que la page ne soit pas blanche ne nous donne aucun devoir-être. C'est pas parce qu'on pourrait trouver, et c'est certainement vrai, qu'il y a des déterminismes génétiques et qui font que les femmes en général ont moins de poils que les hommes, que les femmes auraient l'obligation de se raser les jambes, par exemple. Pour prendre un exemple peu simple, mais bon, il y en a quantité d'autres. C'est-à-dire, c'est jamais parce qu'on dit c'est génétique et que ça veut dire que ça doit être comme ça et qu'il y aurait une obligation que ça soit comme ça. Quant à la possibilité pour les humains de changer, et bien les humains ils peuvent beaucoup changer. On a déjà vu dans le passé que les humains ont déjà beaucoup changé. On ne sait, on n'a aucune limite qui soit déjà prédéfinie, qu'on connaisse jusqu'où les humains peuvent changer. Et je pense que là, c'est vraiment une bonne raison d'être progressiste, de penser que les humains peuvent beaucoup changer et peuvent beaucoup changer dans un sens positif. Il y a eu la conférence de Pierre l'autre jour sur le progrès moral. Je pense que c'est quelque chose de réel et je pense que c'est un grand espoir. Et je pense que il n'y a aucune interdiction non plus de changer. Comme je disais, il n'y a pas de devoir être qui provient de la nos gènes, et c'est la même chose pour l'ensemble des êtres sentients. Il n'y a pas un devoir être qui serait qu'il ne faut pas changer les choses telles qu'elles ont été créées par la nature. Sortir du modèle humain unique, c'est quelque chose de spécifique par rapport à l'animalisme. C'est-à-dire, je pense que le fait de se rendre compte que nous ne sommes pas, que l'humain n'est pas égal à universel, que la notion d'humain ne recouvre pas l'universel, et je pense que c'est une idée très profondément ancrée dans notre culture, que par exemple, quand le slogan « tout ce qui est humain m'intéresse », on a l'impression que ça veut dire « tout m'intéresse, tout court ». Tout ce qui est humain, c'est pour moi synonyme de tout ce qui est, tout ce qui concerne une espèce, c'est à peu près comme si on disait tout ce qui est chat m'intéresse, c'est réduit à une espèce, tout ce qui est humain m'intéresse. Alors qu'en général, on voit humain comme synonyme de universel. L'animalisme nous amène à porter notre regard au-delà de l'humanité, de voir qu'il y a bien d'autres schémas qui peuvent exister, par exemple, que l'idée que le masculin et féminin, la séparation masculin et féminin, est une catégorie universelle de la pensée. C'est quelque chose qui est dit par un certain nombre de philosophes, c'est nettement de droite. Je pense que, de façon consciente ou inconsciente, c'est ce qui inspire cette belle affiche du mouvement des Manifs pour tous, où on voit l'escargot, qui est le symbole de l'hermaphrodite, de l'abolition du masculin féminin, qui est en train de vouloir, phagocyter deux petits enfants qu'on voit bien séparés en rose et en bleu. Et donc, c'est toute l'animalité, quelque part, toute la possibilité, toute l'ouverture que nous donne l'idée d'animalité et de la diversité du monde animal, qui représente, selon ces personnes-là, une menace pour l'ordre établi, qui est qu'il y a des roses et des bleus. Quoi. Et au contraire de ça, je pense que l'animalisme doit nous porter à penser en termes de l'univers de toute la sentience. Le fait que ça m'a toujours frappé que les gens ils se disent « Ah, si on découvrait des aliens, on saurait enfin qu'il y ait une autre vie dans l'univers, une autre vie intelligente, que ce serait vraiment quelque chose de super excitant de voir comment ils peuvent penser, une forme de pensée complètement différente de la nôtre. » Et pourtant, on a des millions d'aliens autour de nous et qu'on n'y porte aucun regard. Au contraire, on les massacre dans les abattoirs. Il y a des millions d'espèces, des milliards d'individus, des milliards de façons de percevoir le monde, toutes les questions que ça peut porter, quel effet ça nous fait d'être une carpe, toute une palette de richesses, de manières d'être au monde, qui nous permet de non seulement de satisfaire une énorme curiosité, mais aussi d'apprendre beaucoup sur toutes les façons d'être qui sont possibles. Et pour la première fois dans l'histoire de la Terre, en tout cas, des êtres sentients se posent ce genre de problèmes et ce genre de questions. Alors je pense que c'est des choses auxquelles je tiens beaucoup. Dans le mouvement progressiste, je pense qu'on devrait apprendre à se dire qu'on a un droit d'inventaire universel permanent, c'est-à-dire que c'est pas parce que quelque chose est traditionnel que c'est une valeur quelconque. tradition n'est jamais raison, que l'existant ne se justifie pas par lui-même, et non plus les dogmes qu'on a établis et qui nous protègent. Donc, bon, c'est pas parce qu'il y a deux siècles et deux genres correspondants dans une culture que cela doit rester ainsi. Des questions qui parfois sont un peu tabou, est-ce que c'est une bonne chose que l'humanité se reproduise? Est-ce que, par exemple, aussi, un jour, ce sera tout à fait possible de se reproduire avec que des femmes? Est-ce que les hommes, en tant que sexe, seront encore utiles? Je n'ai pas la réponse, mais je dis que ce n'est pas une question de tabou à poser. D'autres questions où, à l'inverse, nous, on pense que c'est forcément bien de ne pas tuer. Mais pourquoi on devrait savoir pourquoi c'est bien de tuer? On doit avoir des raisons et des arguments pour le dire, et pas simplement dire « c'est comme ça, et si on n'est pas d'accord, c'est qu'on est des fascistes ». Ce que je tiens pour vrai, je dois pouvoir en dire les raisons. Si nous estimons que les humains doivent continuer à manger les animaux, ou au contraire, si nous estimons qu'il faut arrêter, il faut avoir des raisons. Si nous pensons aussi que le racisme est dans l'erreur, nous devons savoir pourquoi. Si nous pensons que l'homophobie est dans l'erreur, etc. Le sexisme et le spécisme, ce n'est pas auto-évident que ce sont des choses mauvaises. Nous devons pouvoir argumenter et savoir pourquoi. Quiconque veut justifier le modèle culturel unique genré doit pouvoir dire pourquoi, ce qui implique promouvoir une culture de débat et d'argumentation et la liberté d'expression. Mes conclusions, c'est l'avant-dernier slide, donc un progrès sans limite prévisible est possible. Je ne dis pas que c'est un progrès sans limite du tout est possible, mais en tout cas qu'on n'en connaît pas les limites, qu'il faut qu'on n'ait une perspective progressiste, c'est-à-dire arrêter, enlever les barrières dans notre tête qui est qu'il faudrait être tout le temps défensif contre les OGM, défensif contre la mondialisation, etc. Mais au contraire, se dire qu'il faut qu'on accepte d'utiliser les outils. Je rejoins tout à fait la conclusion d'Yves que si l'animalisme n'était pas perclu d'idées réactionnaires, il n'y aurait aucun problème d'infiltration, je mets des guillemets parce que je pense que c'est pas forcément vrai que ça soit un complot d'infiltration, mais que c'est peut-être quelque chose qui se fait assez naturellement, d'une certaine manière, il n'y aurait aucun problème d'infiltration par l'extrême droite, et qu'à la limite, je me fiche de l'infiltration par l'extrême droite, ce qui me gêne, c'est les idées réactionnaires elles-mêmes au sein de l'animalisme, de la même façon que je me fiche des 25% de Le Pen aux européennes, parce que je sais que de toute façon, dans la population française, il y a largement plus de 25% et depuis longtemps de gens qui ont beaucoup d'idées réactionnaires, anti-immigrés et compagnie. Se débarrasser de la conception révolutionnaire, bon là je ne développe pas, j'avais fait une présentation il y a plusieurs années là-dessus, je pense que l'idée révolutionnaire, on s'est fourvoyé là-dedans, c'est-à-dire c'est quelque chose qui implique qu'on espère un changement immédiat, un changement du jour au lendemain, alors que l'ampleur de la tâche implique forcément que ça va durer des centaines d'années, des milliers d'années ou plus, et que qu'on doit apprendre à raisonner en termes de millions d'années. Le grand soir, ça ne sera pas pour demain. On peut espérer peut-être que l'abolition de la viande, ça sera pour dans quelques dizaines d'années, mais il y aura encore énormément de choses à faire. Et bon, un petit slogan, parce que ça fait joli, donc que le progrès sera progressif ou ne sera pas. Ce qui ne veut pas dire, quand on parle de gens qui sont réformistes, en général, on pense qu'ils veulent juste des tout petits progrès. Moi, je pense que c'est le contraire. La tendance à penser en termes de révolution, je pense que c'est une tendance qui nous limite nos perspectives. J'ai souvent vu des gens qui se proclament révolutionnaires dire « Mais étant donné que c'est impossible, en tout cas impossible à court terme, d'empêcher les loups de manger les agneaux, on n'a pas à y penser, puisque c'est impossible à court terme et que la révolution, elle doit se faire à court terme. » Donc la perspective révolutionnaire en elle-même, elle nous bride nos capacités de penser à un avenir avec un progrès important. Et les contours que je dis d'un mouvement progressiste, un mouvement égalitariste, évidemment, au sens de la patience morale, c'est-à-dire que la souffrance de chacun importe autant, quelle que soit l'espèce d'appartenance, quelles que soient les autres caractéristiques d'appartenance, que ce soit la race, le sexe, etc., que ce soit des coupables ou des non-coupables, je rejoins tout à fait ce que disait Yves tout à l'heure. Le constat, malgré cela, enfin, pour moi, c'est pas malgré cela, c'est pas contradictoire, mais un constat quand même d'une exception humaine globale, c'est-à-dire que l'humanité globalement, collectivement, en est arrivée à des moyens techniques et à des niveaux de compréhension largement au-dessus de ce à quoi sont arrivés les dauphins, puisqu'ils ne pouvaient pas faire de feu. C'est quelque chose d'accidentel, ça ne donne pas, ça doit pas nous donner trop de chevilles. C'est de fait comme ça, ça nous donne une responsabilité en tant que simplement personnes qui se trouvons avoir ces capacités-là et non pas des droits. Ça nous donne des devoirs et pas des droits. L'explosion culturelle, donc, c'est le fait que ces capacités humaines, d'une certaine façon, explosent, se sont mises à exploser au cours des derniers siècles. Donc les humains, de fait, aujourd'hui, sont aux commandes de la planète. Ça leur donne le droit de viser le long terme. Je pense qu'on a encore beaucoup à l'esprit cette perspective bouchée par le christianisme qui s'attendait au retour du Christ, le surlendemain, qui nous interdit de penser le long terme. Je pense que c'est quelque chose de culturellement très, très, très profondément ancré. Alors que, évidemment, pour des raisons pratiques, le court terme nous intéresse plus, mais que savoir ce qui se passera dans 100 ans, dans 10 000 ans, c'est quelque chose qui nous concerne et auquel on peut essayer de réfléchir aussi. La culture de débat, encouragée a priori pour toute idée, j'en ai déjà parlé. L'antinationalisme, bon, c'est un truc un petit peu à part, mais je pense que ça deviendra très important dans les années qui viennent, en particulier à cause du réchauffement climatique qui va faire qu'il y a des populations qui vont se trouver mal où elles sont et qui vont vouloir migrer, et les frontières nationales, ça va être des grandes sources de massacres. Et enfin, dernier point, conséquentialiste et bienveillant, et que l'éthique, pour moi, c'est quelque chose qui sera central, c'est-à-dire dépasser l'idée que chacun est forcément égoïste. Je dis conséquentialiste, ça veut dire aussi, moi je suis assez opposé aux éthiques déontologistes qui sont des éthiques de la barrière, des éthiques de droit, bien que je pense que les barrières soient forcément utiles aujourd'hui. Mettre une barrière entre un chasseur et sa proie, mettre une barrière entre un homme et quelqu'un qui veut violer, c'est juste, mais qu'on n'est pas obligé de penser qu'il en sera toujours ainsi, et que ces barrières seront toujours nécessaires, et que peut-être que le chasseur ne sera plus chasseur, et qu'à la place, il y aura un humain qui voudra sauver un animal de la noyade ou des choses comme ça, et que les barrières, c'est un pis-aller nécessaire aujourd'hui, mais pas éternellement. Voilà, je vous remercie.